Et on va continuer notre série sur survol des 66 livres de la Bible. Ce soir, j'étais curieux. J'ai dit, on est rendu à Esdras. Je suis allé voir la grosse Bible. J'ai dit, on va regarder à combien de livres qu'on est rendu. On étudie notre 15e livre, puis 966. C'est long. C'est long, mais si quelqu'un prend la peine d'étudier chaque leçon ou d'y relire avant de lire un livre, moi, je vous garantis que vous ne verrez plus jamais la Bible de la même façon après. Alors, aujourd'hui, on lit le livre d'Esdras. Alors, comme on fait à notre première... on fait toujours, en général, pour chacun des livres, on a deux leçons, dans plusieurs leçons, et on fait l'arrière-plan, le but du livre, le but principal, le plan, les thèmes majeurs qu'il y a dans le livre, les personnages clés, les versets clés, les leçons pour le peuple de Dieu d'alors et le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et dans chaque livre, aussi dans celui-là, la place et la présence de Jésus-Christ. Alors l'auteur, la tradition juive et chrétienne attribue à Esdras le scribe, la rédaction des livres de Esdras et de Néhémie. La date de composition du livre, les livres d'Esdras et de Néhémie, couvre une période de presque un siècle. Les chapitres 1 à 6 d'Esdras se déroulent durant la période de 537 à 515 avant Jésus-Christ, et les chapitres 7 à 10 et tout le livre de Néhémie se déroulent entre 458 et 433 avant Jésus-Christ. Donc, on parle d'une période d'une centaine d'années sur ces deux livres-là. Donc, la période historique du livre et son cadre. On divise généralement l'Ancien Testament en trois sections. Les livres historiques, Genèse à Esther, les livres poétiques, de Job au Cantique des Cantiques, et les livres prophétiques, de Ésaïe à Malachie. Les 17 livres qui vont de la Genèse à Esther présentent une vue historique panoramique d'Israël en préparation pour la venue du Messie. Cette histoire commence par le récit de la création et se poursuit par la narration des événements qui aboutissent au déluge et au salut merveilleux de Noé et de sa famille. Peu à peu, l'attention se porte sur un homme particulier, Abraham et ses descendants, par Isaac et Jacob. L'Écriture suit Abraham dans son voyage qui le conduit d'Ur à Canaan en passant par Charan. Plus tard, poussé par la famine qui sévit dans Canaan, la famille de Jacob, forte de 70 personnes, s'installe en Égypte et y prospère. Quatre siècles s'écoulent. Le nombre des Israélites s'est tellement accru que les Égyptiens les considèrent comme une menace potentielle pour leur sécurité nationale. Les enfants d'Israël sont alors réduits en esclavage. Mais Dieu n'a pas oublié son alliance avec Abraham et il accorde une merveilleuse délivrance au peuple élu. Une fois hors d'Égypte et après des rébellions répétées, les Israélites arrivent devant le pays de la promesse et ils finissent par s'y établir. Des siècles plus tard, sous le règne du roi David, Israël devient une nation puissante et stable. Le royaume uni d'Israël atteint son apogée durant le règne du fils de David, puis commence à s'effondrer. Une guerre civile entraîne le schisme du royaume. Chacun des deux royaumes issus de la division, Israël et connaît le déclin spirituel, comme le montrent les périodes successives d'immoralité, d'idolâtrie et d'impiété. 250 ans après la mort de David, les sujets des 10 tribus du Nord, qui forment le royaume d'Israël, sont exilés en Assyrie. 136 ans plus tard, c'est au tour des deux tribus, de Juda et de Benjamin, c'est-à-dire le royaume du Sud, de connaître un sort identique et d'être déporté à Babylone. Dieu a châtié son peuple. Les livres des rois et des chroniques relate les succès et les échecs du royaume divisé du peuple élu de Dieu, Israël et Juda. Les deux royaumes connaissent leur ultime chute, suivie de leur captivité, c'est-à-dire dans des pays lointains, entre les mains d'envahisseurs étrangers. C'est la sanction divine pour leur rébellion spirituelle et leur péché. Si les livres des rois envisagent l'histoire sous l'angle politique, ceux des chroniques, d'Esdras et de Néhémie le font plutôt dans une perspective spirituelle. Le livre d'Esdras couvre une période de quelque 80 ans, à partir du décret de Cyrus en 538 avant l'ère chrétienne. Tout comme les habitants furent déportés en trois groupes, ils reviennent également en trois convois. Le premier groupe retourne en Israël sous la conduite de Zorobabel en 538 avant Jésus-Christ. Stimulé par les ministères des prophètes Agée et Zacharie, ces Juifs reconstruisent le temple après plusieurs années d'interruption des travaux. Le deuxième groupe revient 80 ans plus tard sous la direction du sacrificateur Esdras en 458 avant Jésus-Christ. Le livre d'Esdras couvre cette période. 14 années plus tard, Néhémie prend la tête d'un troisième groupe en 444 avant Jésus-Christ. Le livre qui porte son nom relate les principaux événements de cette période. Quant au livre d'Esther, il couvre les événements cruciaux qui se produisent à Babylone entre 483 et 473 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire entre les retours des premiers et deuxièmes groupes. Donc, on regarde le but principal du livre d'Esdras. À la différence des Juifs qui entrèrent dans la Terre promise sous le leadership de Josué, les Juifs qui revinrent d'exil à Jérusalem ne furent pas une armée conquérante. Ils furent plutôt une communauté religieuse de bâtisseurs qui bâtirent d'abord le temple, puis les murs de la cité et la communauté elle-même. Ce fut une communauté vivant constamment dans le danger. Du dehors, ils durent faire face à l'opposition pour la construction du temple du Seigneur et des murs de la cité. Du dedans, ils durent faire face aux menaces de la rébellion et de l'apathie. Les livres d'Esdras et de Néhémie suivent des routes similaires. La cour royale de Perse les autorisa à reconstruire le temple. Puis il y eut le voyage, l'opposition et le succès. Esdras et Néhémie regardent à l'histoire avec les yeux de la foi et voient les actions de Dieu à leur époque. Les actions des rois de Perse sont en fait les actions de Dieu lui-même. D'une façon plus spécifique, les livres d'Esdras et de Néhémie racontent la lutte de vie et de mort qu'ils durent expérimenter pour accomplir leur appel à bâtir. La communauté restaurée de Jérusalem dut expérimenter un siège militaire et spirituel. L'enjeu n'était pas la terre ou le pays, mais ou le pouvoir politique, mais plutôt leur fidélité spirituelle à Dieu. Là, vous avez le plan, la page 4 et 5, ceux qui ont les notes. Vous avez un plan succinct. Alors, vous avez vraiment la division, la restauration du temple et la réformation du peuple. Alors, le livre, il parle sur tous ces deux aspects-là. Si tu regardes Esdras, là, ça va parler d'abord la restauration du temple, donc comment le temple a été reconstruit, et ensuite comment le peuple a dû être réformé, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes dans le peuple. Alors, vous regarderez cela en détail, tous les détails sont là. Alors, il y a le plan succinct. Le plan succinct, c'est vraiment un plan très, très, très résumé. Puis vous avez un plan à la page 5 qui est vraiment un plan vraiment beaucoup plus détaillé, qui est le thème, c'est la place et la puissance de la parole de Dieu dans la vie religieuse, sociale et civile de son peuple. Alors, je vous laisse regarder tout ça. Quand vous étudierez le livre, c'est vraiment une bonne chose de retourner dans vos notes puis de vous remettre le plan à l'esprit. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est certains thèmes qu'il y a à l'intérieur du livre. La fidélité de Dieu est très certainement quelque chose de très important dans le livre d'Esdras. Dieu accomplit toujours ses promesses. Ésaïe 44, versets 24 et 28. « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. » Et dans le verset 28, « Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. » Quand même bizarre, hein? un roi païen, et le Seigneur, il dit, « Je dis de Cyrus, il est mon berger. » Parce que c'est de lui qui va venir l'ordre de reconstruire à la fois le temple et à la fois la ville de Jérusalem. Ésaïe 45, versets 1 à 5. « Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre, hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. » Jérémie, chapitre 25, versets 11 et 12. « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtirai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités, je punirai le pays des Cananéens et j'en ferai des ruines éternelles. » Jérémie 29, versets 10 à 14. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je pense que ça pourrait s'appliquer à notre vie d'aujourd'hui aussi. Donc, à la page 7, on a les thèmes majeurs qu'on trouve à l'intérieur du livre d'Esdras. Bien entendu, il y a celui de la providence divine. Même si les actions des livres d'Esdras et de Néhémie, qui est le retour à Jérusalem, la reconstruction du temple, l'envoi d'Esdras pour enseigner la loi de Dieu aux Juifs de retour de la captivité, apparaissent en surface comme étant une initiative des rois perses, les livres démontrent avec clarté que derrière tout cela, Dieu agit avec puissance. Oui, quand on lit le livre, on est porté à penser, c'est le roi qui est en train de donner des ordres et le peuple va aller faire ce que le roi dit. Mais dans le fond, si on sait lire entre les lignes, C'est Dieu qui se sert d'un roi pour ramener son peuple par fidélité aux promesses qu'il avait déjà faites dans d'autres passages dans les Écritures. Donc, un des thèmes majeurs, bien entendu, la providence divine, la main de Dieu à l'intérieur de tout le livre. Il y a aussi le thème de la consécration. En un sens, Esdras et Néhémie sont les histoires de deux murs. Le mur de pierre, construit par Néhémie, servait à protéger les Israélites de leurs ennemis. Ce mur constituait une protection pour que le peuple de Dieu puisse se consacrer à Dieu. Le deuxième mur était plutôt de nature spirituelle. C'était le mur de l'enseignement de la parole de Dieu. Esdras était un scribe versé dans les Écritures et un excellent enseignant. La parole de Dieu, lorsqu'elle est bien comprise, assimilée et obéie, constitue le meilleur mur de protection contre les ennemis de Dieu et amène vers la véritable consécration. Très important, ça. On parle d'un mur de pierre, puis on parle d'un mur spirituel. Et le mur spirituel, de quelle nature il est ici? La parole de Dieu enseignée, obéie et assimilée. Dans le fond, c'est ça qu'on est en train de faire, on est en train d'étudier la parole de Dieu, et ça élève un mur contre les attaques du malin dans toute Église. Et bien entendu, un autre thème majeur du livre d'Esdras, c'est le peuple de Dieu. Les croyants de cette époque étaient des bâtisseurs. Ils durent apprendre à survivre dans des conditions difficiles et instables. Malgré de rudes luttes, ils connurent la victoire finale. Je ne sais pas si vous... Spurgeon, à son époque, avait parti un petit magazine spirituel qui s'appelait « The Sword and the Trowel », qui veut dire l'épée et la truelle. Et ça venait du livre de ce livre-là où, quand le peuple a retourné pour reconstruire à la fois le temple et à la fois les murs pour se protéger des ennemis, c'était l'épée, parce que d'une main, il travaillait, quand tu relis le livre, il travaillait, d'une main, il y avait une épée, puis d'autre main, il y avait la truelle. La truelle, c'est ce qu'il fait pour monter un mur de ciment, d'un mur de briques avec du ciment entre les deux. Alors, quelque part, « The Sword and the Trowel », encore aujourd'hui, on est comme ça. On est toujours en train de se défendre contre les attaques de l'ennemi, l'épée et la truelle. On est en train de construire l'œuvre de Dieu, mais dans le fond, il n'y a rien de changé depuis ce temps-là. Les personnages clés du livre d'Esdras, bien entendu, Esdras lui-même, un scribe versé dans les Saintes Écritures et un enseignant de la loi de Dieu. Alors, ce que je me souviens des choses qui m'ont frappé quand j'ai étudié le livre d'Esdras pour la première fois, ça dit que c'était un scribe versé dans la loi de Dieu. Il était versé parce qu'il a étudié la parole, il l'a mis en pratique et il l'enseignait aux autres. Très intéressant de voir l'ordre. En tout cas, maintenant, on va l'étudier un peu plus en profondeur. Cyrus. Alors, Esdras raconte que par un décret spécial, Cyrus autorisa les Israélites à rentrer dans leur pays et à reconstruire le temple pour lequel il rendit les vases sacrés enlevés par Nébuchadnezzar. Nébuchadnezzar, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tout ramené les vases d'or et il avait tout emmené ça. Et lui, il a redonné les vases sacrés pour qu'ils puissent rétablir le culte là-bas. Très intéressant. Et on a aussi le roi Artaxerxès. Il a autorisé Esdras à ramener à Jérusalem un grand nombre d'exilés. En 445 avant Jésus-Christ, il permit à Néhémie de faire un premier voyage jusqu'à la capitale juive et d'en rebâtir les murailles. Imaginez un roi païen qui commande aux Juifs de reconstruire. Il y a quelque chose de miraculeux là-dedans, là, quelque part. Quelques versets clés. Esdras, chapitre 7. Versets 9 à 10. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au peuple d'Israël les lois et les ordonnances. Je me souviens, quand j'ai étudié ce livre, ça m'a frappé c'est vraiment l'ordre. tu commences par étudier. Ensuite, si tu fais juste étudier et tu ne mets pas en pratique, tu ne feras pas un bon ordre. Ça prend les trois dans cet ordre-là. Esdras, chapitre 7, versets 27 et 28. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Donc, quelques leçons pour le peuple de Dieu d'alors. Les Juifs qui retournèrent à Jérusalem eurent à faire face à un environnement hostile à Jérusalem. Esdras et Néhémie érigèrent des murs pour protéger le peuple et leur permettre de se réinstaller dans le pays. Les murs physiques de Jérusalem représentaient la protection et les soins de Dieu pour son peuple. Les murs de la Torah, qui est la loi de Dieu, représentaient le désir de Dieu d'avoir un peuple consacré et saint. Vraiment, on parle des deux murs. Tu avais un mur physique pour les protéger des ennemis, puis tu avais un mur spirituel pour les protéger des ennemis, mais des ennemis spirituels. Plus tu connais ta parole, plus tu vas être capable de combattre officiellement contre les ennemis de Dieu. Les leçons pour le peuple d'aujourd'hui. La prière de Jésus exprime une vision similaire à celle d'Esdras et de Néhémie. On peut lire dans la prière sacerdotale en Jean 17, versets 15 à 17. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La prière de Jésus construit un mur de protection autour de ses disciples pour le temps qu'ils seront dans ce monde. Comme la Torah d'Esdras, le mur de Jésus est aussi la parole de Dieu. La place et la présence de Jésus dans le livre. Sans la grâce de Dieu, il n'y aurait pas eu de restauration d'Israël. Aucune des tribus ne méritait d'être traitée avec tant de bonté et de bienveillance de la part de l'Éternel. Comme ça dit dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Le rétablissement d'un reste d'Israël dans le pays promis était d'une importance vitale pour l'accomplissement des desseins de Dieu. De nombreuses promesses et prophéties étaient associées au pays de Juda, des promesses à Abraham, Isaac et Jacob, des prophéties prononcées par Ésaïe, Michée et Jérémie. Toutes laissaient entendre que la restauration dans le pays de la promesse était essentielle. Mais un objectif encore plus grand se dessine toujours en toile de fond. Le retour des exilés de Babylone et le rétablissement des Juifs dans leur propre pays prépare le chemin pour la venue du Messie promis, le Christ de Dieu. Le Fils de Dieu doit naître de la postérité de David selon la chair. Il ne suffit toutefois pas qu'il appartienne à la descendance davidique légitime, il faut encore qu'il naisse au bon endroit. Dieu a précisé ce lieu par la bouche du prophète Michée en le promettant 200 ans plus tôt. C'est intéressant, hein? Une prophétie qui dit le lieu où était pour naître le Messie à Bethléem. Michée 5, verset 2. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milieux de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » T'es en train de parler du Messie, t'es en train de parler du Christ. 200 ans avant. Là qu'on voit la solidité des Écritures, hein, Dieu est précis. Il avait même dit, Bethléem, ça avait créé un problème avec les Juifs, parce que les Juifs, ils disaient, de Nazareth, que peut-il faire sortir de bon? Il confondait son lieu de naissance avec le lieu de son éducation. Très intéressant. Alors le Fils de Dieu doit naître à Bethléem, non à Babylone, dans la terre sainte promise, non dans le pays de la captivité. Il faut donc qu'un reste de Juifs retourne dans la terre de la promesse. Bethléem, Nazareth et Jérusalem sont quelques-uns des lieux géographiques liés à des promesses concernant la venue du Seigneur. À peine plus de 400 ans après l'époque d'Esdras, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, comme on peut le lire dans Galates chapitre 4, verset 4. Car c'est aux Israélites qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, et des patriarches, et de tout ce qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Trois applications. La première, apprenons la grande fidélité de Dieu à son alliance et à ses promesses. Dieu est miséricordieux et gracieux. Cependant, il est sévère et corrige les siens. Adorons-le pour sa sagesse, sa souveraineté et son amour. Deuxième application, le livre d'Esdras nous donne l'exemple de ce que signifie la véritable repentance. Dans Esdras, chapitre 10, versets 1 à 3. Pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné dans la maison, devant la maison de Dieu, faisant cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jehiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu, et que l'on agisse d'après la loi. » Voyez-vous, il voyait le problème, et c'est pas juste de le voir le problème, c'est de réagir. La repentance, c'est d'abandonner le problème, c'est d'obéir à Dieu. Très important, on apprend ça dans le livre d'Esdras, qu'est-ce que c'est la véritable repentance. Et le troisième point, n'oublions jamais que Dieu peut utiliser qui il veut pour accomplir ses plans, y compris des rois terrestres puissants. Comme on peut le lire dans Proverbes 21, verset 1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline partout où il veut. » Que notre grand et glorieux Seigneur soit adoré éternellement. Amen.